je voudrais pouvoir te dire que bientôt, tout cela ne sera qu'un lointain et mauvais souvenir, Margot. Un de plus que le temps nous permettra peu à peu d'effacer, murmura Michel de Plaigne en embrassant le bout des doigts glacés de son épouse. Ils se tenaient face à face dans la chambre du manoir de leur petite baronnie de Sainte-Eugénie, et Margot tremblait malgré la décision qu'ils avaient prise la veille, ensemble.
« Mais si nos secrets venaient à être révélés ?»
Sa voix s'était étranglée. Lui aussi avait peur, pour eux, pour leur famille. Il ferma un instant les yeux. Ces dernières semaines, leur vie paisible avait été bouleversée par les attaques d'un loup blanc dans les pâturages, puis par l'arrestation, grâce à une dénonciation anonyme, de 4 des moines du prieuré qu'abritait leur domaine. Qui aurait pu soupçonner que ces anciens templiers gardaient dans leurs cellules des lingots d'or, apparemment prélevés sur le trésor perdu de l'ordre? Ce trésor, immense, convoité à la fois par l'Église et par le roi de France, Coton d'Or, commandant d'Albedin, avait emporté en quittant la contrée. Les inquisiteurs qui se trouvaient en Razès pour enquêter sur la disparition de cet or étaient repartis à Carcassonne avec escorte et prisonniers. Mais ils allaient revenir, et personne ne serait épargné cette fois. D'autant que les bourreaux du tribunal n'avaient pas leur pareil pour délier les langues. Comme son épouse, Michel redoutait leur enquête. Il redoutait qu'elle ne fasse ressurgir sa parentèle avec Othon d'Or. Quelques années plus tôt, ce templier de l'ombre les avait persécutés avant de se racheter en leur offrant la baronnie de Sainte-Eugénie. Quelle conclusion en tireraient les inquisiteurs s'ils venaient à le découvrir? Que Michel s'était fait complice de son père pour dissimuler l'or? Qu'il s'en était octroyé une partie? La vérité n'était pas si éloignée. Le frère de Margot était cet homme que les inquisiteurs recherchaient, celui qui avait convoyé le trésor depuis Chypre jusqu'à la commanderie d'Albedin, et il en avait subtilisé plusieurs coffres, dans lesquels tous deux avaient pioché pour reconstruire le château de Margot à Saint-Ferriol. Pourtant, ce qu'ils craignaient le plus, ce qui, à leur sens, risquait de les conduire au bûcher, étaient les origines cathares de Margot. Car des rumeurs circulaient, voulant que le trésor perdu serve désormais à nourrir la résurgence de groupes d'hérétiques.
« Nous ne pourrons nous protéger qu'en anticipant, » murmura Margot en se blottissant dans les bras de son époux. « Tu dois te rendre à Quillan avec Théophraste pour achever au plus vite ce que j'ai commencé. Nous n'avons que trop tardé. »
C'était là-bas, dans la maison dont elle avait hérité 5 ans plus tôt, que son frère avait déposé les coffres avant de périr, capturé puis torturé par les complices d'Othon d'Or. Michel glissa un baiser dans ses cheveux délicatement parfumés.
« Je te promets que nous ne laisserons rien dans notre sillage, aucune trace du passé de ta grand-mère et de ta tante. Nous vérifierons aussi pour l'or. Tu as bien fait de déplacer ce qu'il en reste dans les entrailles de la montagne, mais tu as agi dans l'urgence. Tu as pu laisser des traces. »
Il avait raison. Le jour de l'arrestation des 4 anciens templiers, elle avait paniqué à l'idée que les inquisiteurs fouillent chaque maison. Elle avait vidé précipitamment celle de sa grand-mère, prévoyant d'y retourner et de la nettoyer après son dernier voyage dans la montagne. Une rencontre imprévue en avait décidé autrement. Une rencontre dont Michel et Othon d'Or ne devaient rien soupçonner.
« Allons, il est temps, » murmura Margot en le repoussant tendrement. « Plus vite ce sera fait. Où est Théophraste ?»«
Au sommet de la tour, avec Anne. » Margot s'attrista. Il ne se passait pas un jour sans que leur fille, tout juste âgée de 5 ans, grimpât pour surveiller les collines alentour et tenter d'apercevoir le loup blanc écumant la contrée. « Anne et ses lubies, » disait son père. S'il savait. Michel l'entraîna par la main en direction de l'escalier. Margot se laissa emmener. Comme si la menace de l'Inquisition ne suffisait, le fardeau de ses propres secrets s'était alourdi ces derniers jours, ranimant sa peur, cette peur viscérale qu'elle avait crue éteinte dans la douceur de leur vie quotidienne. De nouveau, elle le sentait,
Othon d'Or était tout près. Elle avait beau savoir que c'était stupide, qu'il ignorait qu'elle avait rompu leur pacte, cet odieux pacte d'orgueil et de sang, elle ne pouvait s'empêcher de penser que tôt ou tard, il le lui ferait payer. Elle se composa un sourire en parvenant sur le toit. Anne était plus intuitive qu'elle encore. Mieux valait ne pas l'effrayer. Elle la trouva juchée sur les épaules de Théophraste. Malgré sa belle soixantaine, l'ancien intendant de ses domaines de Plansol en Espezel, devenu depuis celui de Sainte-Eugénie, affichait toujours la carrure large et puissante qu'elle lui avait connue. Seule sa chevelure, abondante, avait blanchi. Anne l'adorait. « Alors, damoiselle, comment sont les nouvelles du Païs ce matin ?» s'enquit Michel. Théophraste pivota pour leur livrer la douceur de son sourire. Margot ne fut pas dupe. Comme eux, il était inquiet.
« Tout va bien ?»
annonça Anne depuis son perchoir.
« Le loup blanc veille. »
« N'oublie pas qu'à mon retour, nous engagerons une nouvelle battue. » tempéra son père. Elle le foudroya du regard.
« M'en moque, vous ne l'aurez pas. Il est bien plus malin que vous. Pas vrai, parrain, qu'il est plus malin que vous ?»
Le rire clair de Théophraste fendit l'air vif.
« Ma foi, il l'a déjà prouvé. »
Il la souleva par-dessus sa tête et la déposa à terre avant de s'accroupir face à elle.
« Que tu l'aimes bien ne change rien, Anne. Il est dangereux pour la contrée. »
« C'est faux !»
s'emporta Anne en moulinant des bras.
« Vous n'y comprenez rien. Ce n'est pas lui qui tue les brebis. Lui n'est là que pour moi, pour me protéger. Dis-leur, maman, tu le sais bien, toi, qu'il ne ferait de mal à personne. »
Surpris, les deux hommes se tournèrent vers Margot, amenant un fard à ses joues. Elle haussa les épaules pour atténuer son trouble, grommela.
Si vous trouvez le moyen de lui faire changer d'idée, moi, j'ai renoncé. »
Michel prit sa fille dans ses bras, l'embrassa sur sa joue boudeuse. « Essaie de ne pas te faire croquer jusqu'à mon retour, petit entêté. » Elle ne répondit pas, leva les yeux vers Théophraste.
« Quand reviendras-tu, parrain ?»«
Demain. Il m'est impossible de me passer longtemps de ton mauvais caractère, tu le sais bien. Allons. » « Reprends ton poste et surveille notre départ. Je te ferai signe au détour du chemin de la fonte. »
Margot attendit que les deux hommes la précèdent dans l'escalier pour regarder sa fille que Michel avait assise sur l'un des créneaux. La tête droite, l'allure fière, Anne dominait la vallée. Elle plissait les yeux sous la morsure du soleil, espérant apercevoir ce loup qu'elle, Margot et Dante savaient apprivoiser. Le cœur lourd, elle s'engouffra dans la tour pour accompagner Michel et Théophraste jusqu'aux écuries. Plus vite ils partiraient, plus tôt ils seraient rentrés.